Bonjour à toutes et à tous, nous voici de retour pour un nouvel épisode de notre podcast mensuel. Aujourd'hui, après un tour d'horizon des marchés, nous allons tout d'abord revenir sur la performance du fonds sur le mois dernier et également sur les forts mouvements qui ont eu lieu sur les marchés émergents, qui ont connu des hausses très significatives, encore une fois autour de la thématique de l'IA. Nous reviendrons ensuite sur les résultats de quelques sociétés de notre portefeuille. Et enfin, ce mois-ci, un thème un peu inhabituel pour nous, nous allons revenir sur l'actualité politique de certains pays dont les médias parlent finalement peu, mais qui méritent, selon nous, toute notre attention. Nous allons donc voir un petit peu ce qui est en train de se passer en Indonésie, petit pays de presque 300 millions d'habitants, et du côté de l'Amérique latine. En effet, l'actualité politique a été assez riche au Pérou, au Chili et bien sûr en Argentine. Un programme dense donc aujourd'hui. Et avant de laisser la parole à Charles et Wojciech, les petites recommandations habituelles. Ce podcast et l'ensemble de son contenu est le reflet de notre sentiment sur les marchés financiers et est diffusé à titre exclusivement informatif. En cela, il ne constitue en aucun cas une offre ou un conseil pour acheter ou vendre un instrument financier. Et maintenant, Wojciech, peut-être que tu peux commencer par nous dire ce que tu as vu d'intéressant sur les marchés, sur le mois d'octobre.
Merci Benjamin, bonjour à tous. Il y a pas mal de choses intéressantes qui sont passées, mais je regardais surtout les matières premières parce que elles nous donnent des messages assez divergents en fait. On a d'une part bien sûr les métaux précieux et le cuivre qui sont en forte hausse depuis le début d'année. Et de l'autre côté, on s'aperçoit que les métaux industriels sont soit inchangés, flat, soit ont toute légère hausse cette année. Le pétrole, qui lui baisse, de sorte que le ratio or sur le pétrole, il se trouve au plus haut historique. Nous constatons également des baisses finalement relativement prononcées sur les matières premières agricoles, comme par exemple le sucre, le cacao cette année, le riz, le blé. En fait, il y a que le café qui monte. Je ne sais pas si parce que tout le monde est en train d'ouvrir les petites boutiques en Chine et ailleurs avec du café à emporter, mais en tout cas, le café monte. Et donc, face à des liquidités mondiales qui sont toujours en expansion, on se retrouve dans cette espèce de dichotomie entre l'économie financière, ici illustrée par les métaux précieux, et l'économie réelle par les matières premières industrielles ou agricoles. Donc les deux sont vraiment, les performances sont très divergentes. Et ça reflète en fait un peu la situation d'aujourd'hui qui est finalement très bizarre et très difficile à cerner, puisqu'on a d'une part, donc une toute petite partie en fait de l'économie, qui est la technologie et un tout petit peu la finance, qui on a l'impression qui marche très très bien. Et puis tout le reste est faible. Et il y a beaucoup de signaux en fait très divergents entre ce qui se passe sur le terrain et ce que nous disent les indices. Les indices aujourd'hui qui sont bien sûr très lourds en technologie, très lourds en finance. Donc beaucoup de disparités, très difficile effectivement de s'y retrouver pour les investisseurs qui sont des fondamentalistes un peu comme nous. Voilà.
Oui. Et justement, le mois d'octobre, il n'a pas été tellement en notre faveur, n'est-ce pas, Richard?
Non, non. Il faut admettre que les mouvements du marché ont été défavorables pour nous. Bon, juste pour donner quelques chiffres, et je les donne en dollars, l'indice marché émergent a pris environ 5% sur le mois d'octobre. La Chine a baissé un tout petit peu, 1-2% de baisse, selon l'indice qu'on regarde. Le Brésil aussi est resté plutôt inchangé. En face, on a l'Inde, qui a monté de 6%. Taïwan qui monte de 12%, toujours tout ça en dollars, et puis la Corée qui monte de pratiquement 20% sur un mois. 20% pour le marché coréen. Et donc, sachant que notre fonds n'a rien sur ces trois marchés, Inde, Taïwan, Corée, alors qu'il y a 60% pratiquement de l'actif qui est exposé sur la Chine, bon, franchement, notre performance sur le mois d'octobre n'a pas pu être différente. Et je dois dire que c'est un peu le prolongement du mois de septembre, puisque à partir du tout début de septembre, il y avait ce grand mouvement sur le titre Oracle aux États-Unis qui a déclenché une nouvelle vague de ce que j'ai qualifié un tout petit peu quand même de folie IA, Et donc une très très forte performance de tout le bloc IA qui a également entraîné avec elle l'indice émergent avec TSMC qui a à nouveau monté beaucoup, plusieurs valeurs de semi-conducteurs en Corée, effectivement Samsung Electronics qui monte, SK Hynix dans les mémoires qui prend 10% chaque jour. Donc effectivement c'est assez compliqué. Et, alors sur la Chine, par contre, je reviens juste rapidement. Bon, la prise de bénéfices sur la Chine, c'est plutôt assez normal parce que le marché, il a eu de bonnes performances durant le mois d'été. Il a attiré beaucoup de flux en mai, juin, juillet et août. Et donc, forcément, il fallait un peu calmer les choses. Et je pense que nous avons déjà expliqué lors de notre podcast précédent pourquoi nous pensons que la Chine se trouve en un bull market structurel. Donc, une fois, il y a des liquidités, il y a un coût de capital faible, il y a un coût de l'énergie qui est faible, il y a une montée en puissance du marché local d'action, très bonne santé bilancielle de China Inc., donc des corporations chinoises. Et d'ailleurs, nous organisons un webinaire le 9 décembre pour développer davantage nos arguments sur ces sujets. Et donc, si vous avez envie de participer à ce webinaire, s'il vous plaît, contactez-nous.
Très bon teaser, Wojciech, bravo pour le placement. Donc, si on revient au sujet, on a une prise de bénéfice relativement logique sur la Chine, et de l'autre côté, on a une logique très spéculative avec ouais, cette vague d'excitation autour de l'IA.
Mais oui, c'est exactement ça. Cette montée de tout le complexe IA est basée sur une espèce de croyance, sur une sorte de spéculation que la technologie IA va apporter des merveilles au monde, qu'elle va tout changer, qu'on pourra oublier les réalités d'endettement énorme, énormissime qu'on voit un peu partout dans les pays développés, les guerres, le chômage, etc. Et tout ceci conduit à cette exagération d'investissement, de CapEx, qu'on connaît tous aujourd'hui. Pour donner un ordre d'idée, aux États-Unis, on estime que les investissements IA représentent pratiquement 50% de la croissance du PIB américain. Par ailleurs, il faut juste noter, bon, c'est pas pour être trop critique ici, mais finalement, cet investissement IA est relativement peu créateur d'emplois et il ne se traduit pas tellement par plus de consommation par la suite, donc, parce qu'il y a peu d'emplois qui sont impliqués, donc il n'y a pas de vraiment de. Et bien sûr, aux États-Unis en particulier, la consommation c'est le principal moteur de PIB. La prolifération des centres de données aussi a un impact sur le prix d'électricité, parce qu'on sait très bien que ça consomme beaucoup d'électricité, et les prix d'électricité ont déjà commencé à monter aux États-Unis, parce que bien sûr, les États-Unis n'ont pas suffisamment investi en électricité, contrairement à la Chine d'ailleurs, c'est un autre sujet. Ça squeeze davantage les budgets des ménages modestes ou même moyens aux États-Unis. Et puis même, un peu anecdotiquement, les sociétés de construction aux États-Unis qui ne construisent plus de maisons parce que tout le monde est occupé à construire des centres de données. Donc ça non plus, alors que le marché immobilier américain est un peu sous stress quand même. Donc on a toutes ces exagérations-là. Et en face, une utilisation de l'IA qui reste plutôt assez faible. Dès que les étudiants partent en vacances, on s'aperçoit que l'utilisation baisse fortement. Je veux dire, certains décrivent même que ces outils de l'IA, type ChatGPT et autres, c'est en fait, ce sont c'est juste, il s'agit juste d'énormes outils de plagialisation du système, en quelque sorte. C'est assez drôle, mais c'est un peu ça. Et les étudiants, effectivement, sont les principaux utilisateurs de ces outils-là. Mais en fait, il y a très peu d'utilisation d'applications industrielles. Et c'est pas juste nous qui le disons, c'est effectivement les sociétés d'IT, les sociétés de consulting qui sont assez claires là-dessus. Pour l'instant, il n'y a rien vraiment de, il y a peu de choses qui sont vraiment concrètes. Donc nous trouvons aujourd'hui dans une espèce d'économie circulaire où un groupe de géants de la tech s'auto-alimente en revenus Et on profite, donc on a les OpenAI, Oracle, Microsoft, Meta, Google, Apple, Amazon, avec Nvidia et TSMC qui sont au centre. C'est une espèce de schéma de Ponzi qui est très malsain, et très franchement, cette orgie de CapEx ne peut pas bien se terminer. Oui, nous savons que nous sommes dans une bulle aujourd'hui de CapEx, au moins du CapEx, c'est aussi valorisation, mais nous ne savons pas, bien sûr, jusqu'à où ça va aller. C'est toute la difficulté de notre métier en ce moment.
Donc j'imagine que vous n'avez pas fait de grands mouvements sur le fond ce mois-ci.
Effectivement non, et je m'arrêtais là. Pas beaucoup de gros mouvements. Il nous semble que le portefeuille il est bien positionné. Nous avons environ 20% de l'upside, donc de potentiel d'appréciation en moyenne sur l'ensemble de portefeuille, pour une croissance estimée à 5 ans d'environ 12% par an, un rendement dividendaire d'environ 3%, et un PER moyen d'un peu moins de 15 fois. Donc ça nous paraît être un bon portefeuille, très solide et très bien positionné. C'est une offre d'investissement selon nous qui est assez intéressante.
Ok. Et du côté, si on regarde un peu, est-ce qu'il y a eu des résultats de société intéressants lors des dernières semaines, Charles?
Oui, alors les résultats du troisième trimestre sont souvent concentrés entre la fin du deuxième moitié du mois d'octobre et la première moitié du mois de novembre. Donc on a déjà eu, on a commencé à avoir quelques résultats. Parmi les sociétés qui ont déjà reporté, on peut noter que les résultats du troisième trimestre de l'embouteilleur mexicain Arca Continental étaient attendus à son plutôt faibles. Pourquoi? Parce que le consommateur mexicain est sous pression. Et en plus de ça, surtout au troisième trimestre, là, les mois d'été, le mois de septembre, la météo a été particulièrement mauvaise au Mexique. Alors c'est souvent une excuse qui est donnée par les brasseurs ou par les sociétés quand elles publient des résultats un peu moins bons. Dans ce cas-ci, il faut quand même admettre qu'il faisait meilleur en octobre, il faisait meilleur à Paris qu'à Mexico City. Pour n'importe qui a déjà été là-bas dans ces mois-là, c'est pas normal. Donc on va dire un environnement particulièrement difficile dans lequel la société a opéré, mais elle continue de démontrer en quelque sorte tout son savoir-faire en matière de gestion de marque, de gestion de portefeuille, en poussant des nouvelles catégories à plus forte croissance, telles que les boissons énergisantes, les ready-to-drink, les thés glacés, ce genre de choses qui permettent non seulement un petit peu de compenser les volumes, mais ça reste quand même des catégories plus petites, mais aussi de monter un peu le prix moyen, parce que c'est des produits un peu plus premium. Et de l'autre côté, de démontrer leur excellence opérationnelle, parce que de réussir à contenir les coûts malgré des volumes qui étaient en baisse de 2,9% au troisième trimestre, les marges se sont maintenues et se sont même on a même eu une expansion de marge sur les opérations américaines. Aujourd'hui, le Texas représente quand même 30% des profits du groupe avec une marge EBITDA de 17%, ce qui était totalement inattendu. En 2017, quand ils font leur acquisition, la marge était aux alentours de 10%. Et surtout, quand ils avaient fait cette acquisition en 2017, tout le monde se demandait mais pourquoi un embouteilleur mexicain va aller s'aventurer aux États-Unis, un marché quasiment le marché de naissance du Coca-Cola. Donc, qu'est-ce qu'un Mexicain peut venir apporter, une société mexicaine peut venir apporter aux États-Unis? On voit 8 ans plus tard que au final beaucoup de rationalisation, beaucoup d'investissement, beaucoup de gains de profitabilité que la société a pu délivrer sur cette période là. Donc ce qu'on devrait s'attendre à partir de début 2026 à une normalisation de la demande au Mexique. Et en Argentine, dans la société est exposée. Et ce qui fait que nous restons vraiment confiants dans cette croissance à venir, et on profite de cette faiblesse passagère pour construire patiemment notre position sur ce compounder de long terme. Voilà. On peut regarder de l'autre côté du globe, même s'ils n'ont pas publié de résultats. On a eu un peu plus de détails sur le lancement de nouveaux jeux de la plateforme chinoise, de l'éditeur de jeux chinois NetEase. Donc pour 2026, il y a notamment deux gros jeux qui devraient sortir, qui sont Ananta and Sea of Remnants. Me demandez pas, je suis pas vraiment un gamer, je peux pas vraiment vous donner des détails sur le jeu en lui-même. Ce qui est un petit peu nouveau entre guillemets, novateur, notamment, il me semble que c'est pour Ananta, c'est que en fait, ça a des personnages qui vont être capables sur une plateforme, donc il y a plus multijoueurs, mais des personnages qui vont être capables de se balader dans la ville, et l'accès aux personnages, aux différents personnages, sera totalement gratuit. La monétisation va se faire sur des accessoires pour pouvoir booster un petit peu ou habiller entre guillemets les personnages et le jeu. Et cette façon de monétiser est assez nouvelle, assez prometteuse, dans le sens où, bah, forcément, tant que c'est gratuit, tout le monde va vouloir, tout le monde va pouvoir y aller. Et ensuite, même s'il y a encore quelques doutes sur le niveau de monétisation possible pour ce jeu, ça reste très très positif et très excitant de savoir justement jusqu'où ils peuvent aller, comment ils vont pouvoir, quel va être leur niveau d'innovation aussi, ou de créativité pour pouvoir vendre des petits items dans le jeu. Et on s'attend à ce que petit à petit la montée en puissance pendant 2026, est-ce que ces jeux-là représentent déjà plus de 10% des revenus au-delà de 2027. Donc, à 16 fois les bénéfices pour les 12 prochains mois, on considère quand même que la valorisation de NetEase est assez attractive. Et surtout, elle reste un discount même par rapport aux autres éditeurs chinois qui sont listés sur les actions A, qui sont plus aux alentours de 25 fois. Et donc la société qui pour l'instant est cotée à Hong Kong en action H, devrait être, je crois qu'elle l'est devenue là pendant le mois d'octobre, éligible pour le Stock Connect. Et donc les Chinois continentaux ou les donc retail et institutionnels vont aussi pouvoir faire à ce niveau-là un arbitrage entre NetEase et les autres éditeurs de jeux, sachant que NetEase est quand même le numéro 2 derrière Tencent sur le marché chinois.
Donc, mais c'est vrai que assez bizarrement, le marché, il ne veut pas vraiment re-rater, entre guillemets, NetEase. Il y a toujours un tout petit peu de méfiance, alors que c'est totalement injustifié, à vrai dire, parce que c'est une société qui, historiquement, s'est montrée, très consistante dans sa stratégie. Elle s'est finalement relativement peu diversifiée sur d'autres activités par rapport à beaucoup d'autres entreprises dans le secteur de technologie d'internet en Chine. D'une part, donc
ils avaient essayé quand même. Ils avaient fait leur plateforme un peu d'import de e-commerce qu'ils ont rapidement vendu quand ils se sont rendu compte que bon, finalement ça marchait pas tellement.
Exactement, et il y a en fait pratiquement aujourd'hui, ils sont toujours dans l'éducation qui marche pas mal du tout, et surtout ils sont le numéro 2 dans la musique à côté de Tencent Music, et là aussi ça marche plutôt pas mal. Donc en fait leur diversification du moment est plutôt assez intéressante. Par ailleurs, il faut juste peut-être rappeler que la Chine, on a vraiment terminé avec cette attaque sur l'industrie des jeux qu'on a connu il y a quelques années, et que à nouveau on constate qu'il y a beaucoup de nouveaux produits, de nouveaux jeux qui sont autorisés à la vente, bien sûr d'une manière plus rationnelle, parce qu'à un moment, bien sûr, c'était trop, donc il fallait rationaliser. Le gouvernement a eu raison d'intervenir à ce moment-là, mais bon, ça c'est Et ça, c'est fini. Et puis,
surtout pour les mineurs.
Surtout pour les mineurs, oui, pour les enfants. Et puis, anecdotiquement, on entend des bruits selon lesquels l'IA aurait ici un impact finalement assez positif sur les sociétés de jeux, parce que l'intelligence artificielle permettrait de peupler davantage l'environnement de jeu, ce qui serait plus amusant pour les joueurs, surtout en solo. C'est bien, beaucoup de jeux aujourd'hui se font en groupe, où des copains se rencontrent, où ils se rencontrent pas, où ils jouent à distance. Et s'ils n'ont pas avec qui jouer, ça, c'est moins drôle, quoi. Et donc là, on peut effectivement se servir de l'IA pour avoir un jeu qui est bien peuplé. Voilà. Et peut-être un dernier point sur China Oilfield Services. On n'en parle pas beaucoup. C'est une société de services pétroliers offshore en Chine qui a publié aussi ses résultats. Qui a publié les résultats du trimestre, en fait, troisième trimestre. Le titre a bien réagi, ce qui est probablement assez normal, parce que plus personne ne suit les sociétés de services pétroliers de nos jours, donc c'était plutôt assez facile, en fait, de surprendre le marché cette fois-ci. Bon, de l'autre côté, il faut admettre que nos deux investissements dans le segment, c'est-à-dire Crossell China Oilfield Services et Schlumberger, n'ont pas contribué positivement à nos performances jusqu'à présent. Et donc, pourquoi ? Parce que l'environnement n'est pas en fait très porteur actuellement pour les services pétroliers pour un certain nombre de raisons. Par exemple, parce que le prix du pétrole est assez bas, ce qu'on a dit au début. Il y a donc moins de génération de cash flow. Et comme beaucoup d'entreprises pétrolières veulent continuer à distribuer aux actionnaires sous forme de dividendes ou de rachats d'actions, ben forcément, on réduit les capex. Et en face, on se retrouve donc avec des réserves de pétrole qui diminuent en duration. Donc c'est plutôt assez négatif, mais plutôt que d'investir pour chercher de nouvelles réserves, de nouveaux gisements, en fait, les sociétés pétrolières préfèrent se racheter. Donc il y a un peu un mouvement de consolidation des M&A qui est en cours, parce que bon, franchement, ça porte ses fruits plus rapidement que de s'embarquer dans des recherches qui durent plusieurs années en général. Finalement, les gisements actuels en cours d'exploitation sont utilisés de manière plus efficace qu'avant. Il y a eu des développements de nouvelles technologies. En conséquence de tous ces éléments, 2025 est une année où les dépenses en services pétroliers offshore diminuent d'environ 2%. On a eu quelques années de croissance. Là, ça baisse en 2025 de 2%, et 2026, pour l'instant, est vu comme une année stable. Et plus loin, on n'a pas vraiment de visibilité. Donc, pour rappel, Cosel est le bras service du chinois Sinuk, qui lui-même est la société pétrolière responsable de tous les développements pétroliers offshore en Chine. Et Sinuk est le principal client donc de Crossell, de China Oilfield Services. 50% du business de Crossell, c'est Sinuk. Mais ce qui est surtout important, c'est que Sinuk augmente sa production régulièrement. C'est un peu la stratégie, bien sûr, des Chinois de se rendre un peu moins dépendant du pétrole international. Et l'activité à l'international de Crossell, qui est environ 30-40%, est solide, mais il n'y a franchement pas eu de feu d'artifice, récemment ici, puisque surtout à cause des Saoudiens qui ont bloqué l'expansion de leur production annuelle. Donc dans ce contexte, Crossell se débrouille plutôt bien avec un chiffre d'affaires en hausse de 4% au troisième trimestre, résultat opérationnel qui progresse de 12%. Et le profit net même de 40% grâce à la réduction d'endettement et moins de taxes. Donc, je rappelle juste que c'est un titre qui se paye aujourd'hui à 7-8 fois les bénéfices, distribue un dividende donc un rendement dividendaire de 4%. Et je pense que nous allons faire un update un peu plus détaillé sur l'ensemble du secteur un peu lors de nos podcasts à venir.
Ok. Super, merci à tous les deux. Comme on annonçait au début du podcast, merci pour ces performances et ces détails sur les résultats. On va passer maintenant un peu au thème du mois. Donc on expliquait qu'on allait sûrement revenir un peu sur l'actualité de certains pays qui sont finalement peu mis en lumière. Donc, Wojtek, je crois que tu voulais peut-être commencer par l'Indonésie. C'est vrai qu'on a entendu un tout petit peu parler avec les revendications et les manifestations qu'il y a eu à Jakarta il y a un ou deux mois. Et je crois que le gouvernement est en train de mettre en place pas mal de réformes.
Oui, je pense que réforme, c'est peut-être un peu exagéré, mais effectivement, l'Indonésie nous intéresse beaucoup parce que c'est un grand pays, bien évidemment, et qui s'allie de plus en plus avec la Chine, et donc qui pourrait en principe être porté par la Chine dans les années, même dans les décennies à venir. Bien sûr, ici, la condition est que le gouvernement indonésien ne commette pas d'erreurs stratégiques majeures. D'accord? Et donc, bon, il faut quand même se poser quelques questions, on peut avoir quelques doutes. Donc, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui s'est passé récemment? Quels sont les événements intéressants? Il y a d'abord ce fonds national de réserve qui s'appelle Donantara, dont nous avons déjà parlé, qui a fait couler pas mal d'encre dans la presse, parce qu'on comprend pas exactement son fonctionnement et pourquoi et comment. Et, en tout cas, il a mis des ce qu'on appelait des Patriot Bonds, donc les obligations, pour l'instant pour 3 milliards de dollars, voilà, et qui sont rémunérés à un taux à 2%. Hein, donc c'est une très faible rémunération par rapport aux taux longs indonésiens qui sont aujourd'hui environ de 6%. Et le problème, c'est que tous les riches industriels et tous les tycoons indonésiens sont obligés d'en acheter, quoi. Parce que si on n'achète pas, après, on n'a pas les ouvertures qu'il faut pour les business.
L'alternative à la taxe Zuckman, ça.
Exactement. Il faut se montrer patriote. Voyez, donc effectivement, il faut acheter ces Patriot Bonds, ce qui est un mouvement, allez, on peut bien évidemment débattre sur tout ça. Deuxième point, on se souvient, il n'y a pas longtemps, le gouvernement ou le président Prabowo a limogé l'ancien ministre des Finances, qui était très populaire auprès des marchés, pour les marchés, et ce qui a en fait causé la baisse des marchés beaucoup. Hein. Et là, on a un nouveau ministre. Il était l'ancien ministre des Finances, était plutôt en faveur d'austérité, et donc ces dernières années, il a mené une politique très austère, très disciplinée au niveau budgétaire, fiscal, etc. Maintenant, on a un nouveau ministre des Finances qui s'appelle Purabaya Sadeva, qui est davantage orienté croissance. Et donc, il a commencé à utiliser les fonds de réserve. L'Indonésie a accumulé beaucoup de réserves ces dernières années, grâce à l'ancien ministre des Finances. Et il a commencé à utiliser ces fonds pour alimenter l'économie. Et, en pratique, ça se traduit par en fait plus de liquidités qui ont été injectées dans les banques. La majorité des banques indonésiennes sont des banques étatiques, et parce qu'ils veulent créer plus de crédits, donc distribuer plus de crédits. Donc c'est un peu le cheminement de ces liquidités. Mais bien évidemment ici, se pose la question, bon, est-ce que ces crédits vont être bien utilisés? Est-ce qu'il n'y aura pas une détérioration d'actifs de banques en Indonésie? Et c'est toujours un sujet sensible parce que tout le monde a quand même toujours le souvenir de la crise des années 90 et donc la faillite des banques, etc. Et puis, il y a moins de fonds de réserve, donc plus de vulnérabilité de l'économie indonésienne lorsqu'il y a quelque chose qui va pas potentiellement. Et puis, un troisième élément, c'est le Parlement indonésien, ça on n'a pas du tout parlé, et ils sont en train de modifier les statuts de la Banque centrale. Donc aujourd'hui, comme un peu partout ailleurs, le rôle de la Banque centrale indonésienne est de défendre la stabilité de la monnaie et du système financier en général. En fait, c'est pas exactement comme partout ailleurs. Mais en Indonésie, c'est comme ça. Et là, ils sont en train d'ajouter un deuxième objectif, c'est celui de croissance économique. Et donc la banque centrale va devoir créer un environnement prospère pour supporter la croissance. Et en cas de désobéissance, si ce n'est pas assez parfait, mais le gouvernement, le parlement pourra limoger carrément le président de la banque centrale. Donc là on est clairement en train de passer d'une institution indépendante vers une institution qui est dépendante de la volonté du gouvernement. Ce qui juste c'est partout dans le monde ça se passe aujourd'hui, hein. Aussi en Indonésie, donc pas un développement formidable. Et donc, pourquoi est-ce que tout ça se passe? Pourquoi il y a ce qu'est la Patriot Bonds, la Banque Centrale change son statut, nouveau ministre des Finances? Ben, c'est parce que Prabowo, il s'est fixé un objectif de croissance très ambitieux de 8% pour le PIB de l'Indonésie. Et la dernière fois que l'Indonésie a cru de plus de 8%, c'était il y a 30 ans, en 95. Depuis, la croissance a été plutôt aux alentours de 5% par an. Et ces 5% par an, ça correspond plutôt à une espèce de croissance naturelle, parce qu'on a la population indonésienne qui, elle, croît d'environ 1% par an. On a l'inflation qui est aux alentours de 3%, et puis on a un peu de gains de productivité par-ci, par-là, donc on retombe sur les 5% qu'on a en Indonésie depuis 30 ans. Pour atteindre 8%, mais il faut faire quelque chose, donc on peut augmenter les déficits, utiliser les réserves, prendre de la dette, imprimer de la monnaie, et si ces fonds sont investis en infrastructure ou en usine, cela va se traduire par plus de croissance sur le long terme, bien sûr. Mais si ces mêmes fonds vont directement dans la poche du consommateur, ben, l'impact sur la croissance sera de très court terme seulement, puisque les capacités de production locale ne vont pas pouvoir répondre à une demande supplémentaire. Et donc la montée de la consommation va se traduire par une hausse de l'inflation, une hausse des importations, donc pression sur la monnaie, donc hausse des taux nécessaires, forcément, et donc baisse de la croissance in fine. Donc, diriger les investissements sur le consommateur a forcément le mérite de calmer les foules à court terme. Et c'est vrai qu'on a eu des manifestations importantes en Indonésie, mais ce n'est pas une solution de long terme. Et l'Indonésie n'est pas suffisamment prospère aujourd'hui pour s'appuyer sur sa consommation interne exclusivement comme peuvent le faire les États-Unis. D'accord, nous avons déjà discuté ça auparavant. Seule une industrie puissante, capable d'exporter, peut apporter une supériorité à la croissance au-delà de la croissance naturelle d'un pays. Donc nous devons être très attentifs à la qualité des mesures proposées par Prabowo et par son gouvernement. Et nous comprenons bien sûr que sur le court terme, il faut un peu équilibrer les choses, qu'il faut calmer la population, mais il ne faut pas que ça aille trop loin. C'est pour ça que nous regardons ce qui se passe politiquement en Indonésie aujourd'hui. Pour l'instant, les finances indonésiennes sont saines. Il y a un déficit budgétaire qui est autour de 2,8-2,9% en 2025. Beaucoup de pays peuvent être envieux d'un tel déficit dans le monde. Légalement, l'Indonésie ne peut pas dépasser 3%. Il y a un excédent de la balance courante. Donc ça va pour l'instant. Le marché a corrigé sur les manifestations, sur les changements. Mais là, sur les récentes annonces que je viens de mentionner, le marché a rebondi.
Ok, merci beaucoup, Wojciech.
Les chiffres du troisième trimestre viennent de sortir, là, et ils sont quand même encore loin des 8%. Mais ils ont bien atteint les 5% de croissance au Q3. Assez bien réparti au passage. Oui, bien sûr. Et assez bien réparti au passage sur le troisième trimestre entre consommation et investissement.
Ok. Merci beaucoup, Wojciech. Charles, je me tourne vers toi. Je crois que il y a eu pas mal d'actualités politiques dans plusieurs pays en Amérique latine.
Une destitution, des élections, une campagne. Oui, il y a eu quelques éléments. On va commencer par le Pérou. Au Pérou, on a vu le maintenant ex-présidente Dina Boluarte, qui a été destitué par le Parlement. Alors là aussi, la génération Gen Z a frappé et on a vu énormément de manifestations au Pérou qui ont commencé déjà en 2022 et puis sont intensifiées cet été. Donc c'était pas totalement nouveau, mais oui. Se sont intensifiés là cet été, plutôt août-septembre, et sur fond, enfin les revendications de justice sociale comme un peu partout, et plus particulièrement au Pérou, sur une montée de l'insécurité et du crime organisé. Donc le Parlement s'est servi de cette impopularité de la présidente. qui est également impliqué dans certains prises d'intérêt illicites, on va dire. Donc elle a été destituée, elle a été remplacée. De nouvelles élections présidentielles sont prévues en avril 2026. Donc on est sur un président qui va être vraiment très temporaire. Ce qui est intéressant.
Déjà contesté, je crois, c'est ça. Hein. C'est ce que j'ai lu. Ferry.
Ben en fait oui, parce qu'il vient, enfin, il vient du même parti au final, donc il n'y a pas eu de vrai changement. Enfin, c'est plus de la continuité, même si la personne a changé. Après, ce qui est intéressant dans ce cas-là, c'est quand même que, bah, au final, vu l'historique des institutions, au moins sur les 15-20 dernières années, et surtout la crédibilité de la Banque centrale, permet aux investisseurs de rester relativement confiants dans la monnaie et dans l'économie. Malgré cette destitution, on pourrait s'attendre à un petit peu d'instabilité aussi sur les marchés. Et en réalité, on a vu le sol péruvien qui s'est maintenu et qui s'est même légèrement apprécié par rapport au dollar sur cette même période. Alors, faut aussi avoir en tête évidemment que le Pérou regorge de métaux précieux et comme l'avait dit Wojciech au début, évidemment l'or, le cuivre se sont énormément appréciés sur l'année, donc le Pérou en bénéficie. Un peu plus au sud, au Chili, on a vu le premier tour des élections qui aura lieu là. Dans 10 jours, le 16 novembre, et donc la campagne qui on est en plein, enfin le dernier sprint de la campagne. Et ce qu'on voit, c'est que le président sortant, Monsieur Boric, termine son mandat, et au final son mandat était beaucoup plus modéré que le ton initial. Et en fait, à la base, lui, il vient, c'est un quasi-communiste, hein, où on quasiment, on peut dire un communiste, ou en tout cas très à gauche. Donc, au moment où il avait été élu là aussi il y a 4 ans sur fond de manifestation pour plus de justice sociale, potentiellement révision de la constitution et chamboulement total de la politique chilienne. Ce qui s'est passé, on est 4 ans plus tard, ce qui s'est passé, c'est un mandat beaucoup plus modéré, il a été bloqué, il n'a pas pu faire ce qu'il voulait, et de toute façon, ce que lui voulait mettre en place dans sa coalition, qui impliquait des gens de gauche plus modérés, c'était pas non plus une révolution totale. Les derniers sondages donnent le candidat conservateur de droite, Monsieur Cast, vainqueur. Les sondages récents dans d'autres pays du monde ont montré que quand même entre les sondages et les résultats des élections, il y a quand même une grosse différence potentiellement. Mais quoi qu'il arrive, de toute façon, le nouveau président, que ce soit lui ou l'autre candidat, sera de toute façon considéré comme plus business friendly par la communauté à la fois entrepreneuriale et des investisseurs. Là aussi, on a vu au Pérou et là au Chili, dont il s'est très largement inspiré dans son histoire, en tout cas dans son histoire très moderne, c'est un système qui donne quand même pas mal de pouvoir à la branche législative, donc au Parlement. Et on vient de le voir là maintenant avec cette destitution de la présidente Boluarte. Mais quelque part, ce contre-pouvoir, il est aussi basé sur un certain état d'esprit que les décideurs politiques partagent, qui est que le développement économique du pays passe avant le reste, et il passe par une banque centrale indépendante et un secteur privé fort, et que c'est à travers ce développement économique que la population et que le développement social va pouvoir faire. Faut avoir en tête que c'est des pays qui étaient quand même, dans les années 70-80, des pays qui étaient très pauvres. Donc le point de départ étant très bas, ils ont des ressources minérales, des métaux, mais c'est tout. Il n'y a pas non plus de ressources d'autres types matières premières. C'est des populations qui sont assez petites. Enfin, on va dire que leurs points forts sont assez limités à la base, leurs points forts naturels. Et donc, cette façon de penser, elle est très, elle est très imprimée à l'intérieur de l'esprit des décideurs politiques. Et on a vu donc, enfin, le président communiste au Chili, Monsieur Boric, il n'a pas réussi, ne serait-ce qu'à augmenter les impôts. Les taxes n'ont pas augmenté au Chili pendant son quinquennat. C'est pas un quinquennat, c'est 4 années. Alors qu'il avait été élu pour de la justice sociale, malgré l'élan politique sur lequel il a été élu, il n'a pas réussi. Pourquoi ? Parce que le Parlement au final s'est opposé.
Ces deux pays-là, historiquement, Pérou et Chili, sortent toujours un peu du lot, quoi, sur le continent.
Ah oui, dernières années.
Oui, complètement.
Oui. Et les banques centrales font un bon boulot, et les régulateurs font un bon boulot pour justement permettre de continuer à travailler dans un cadre relativement stable. Après, les analystes un peu plus chagrins diront qu'en réalité, ce qui se passe, c'est que c'est des pays qui sont contrôlés par quelques familles un peu historiques, et que ces familles-là ont assujetti les politiques, et donc au final que les décisions sont prises. Je ne ferai pas de commentaires.
Ils s'inspirent forcément. Hein.
Séparation des pouvoirs, etc. Oui. Non, mais là, c'est encore plus concentré. Et que du coup, au final, la population passe après, on va dire, et que les décisions politiques sont faites dans les intérêts des grands groupes, des familles, et donc des grands groupes locaux.
C'est encore une fois comme chez nous, où la
Je ne sais pas si le niveau de prélèvement actuel, enfin, si on parle que des taxes, par exemple, le niveau de prélèvement actuel en France est vraiment dans l'intérêt de LVMH ou L'Oréal. D'autres décisions, oui, je suis d'accord. Là, pour ça. Et donc, au final. Pardon, vas-y.
Non, je voulais juste peut-être parce que l'Argentine, c'est quand même c'est un peu différent, n'est-ce pas? Même si on a eu aussi des news, hein.
Alors oui, sur l'Argentine, on est sur un cas, mais diamétralement opposé. Donc, des péronistes au pouvoir depuis les années 70, péronistes étant quasi communistes. Le président Milei qui a été élu il y a 2 ans et qui a fait campagne avec une tronçonneuse, littéralement en arrivant avec une tronçonneuse allumée sur scène quand il faisait ses speeches pendant la campagne, pour dire ça va être ma méthode, je vais couper dans le tas des dépenses de l'État. Ce qu'il a fait, comme promis, la première année où il a débarqué, de manière extrêmement spectaculaire, les budgets argentins est passé positif. Donc, il n'y a même pas de déficit budgétaire en Argentine aujourd'hui. Ça s'est fait aux dépens avec une inflation aussi élevée. Ils avaient une inflation à 3 chiffres qui est redescendue aux alentours de 20-15% maintenant. Et donc on a tout gelé pendant 1 an. Perte de pouvoir d'achat, plein de dépenses en moins, etc. Mais maintenant, la situation est beaucoup plus saine, pas suffisamment encore assainie, mais beaucoup plus saine. Et là, c'était les élections de midterm, ou l'équivalent des midterm en argentin. Et donc, ce qu'on a vu, c'est que le Trump de la Pampa, tel qu'il est surnommé, c'était quand même le premier invité après l'élection de Trump. Hein. Premier invité international, c'était Milei, Javier Milei, qui est arrivé à Mar-a-Lago, donc ça donne un peu une idée de la proximité. Donc son parti, La Libertad Avanza, a obtenu 41% des votes, 16 des 24 provinces. C'est un raz-de-marée qu'il a eu, absolument inattendu, surtout avec les résultats un peu négatifs qu'il avait eu sur une élection anticipée en septembre. Et donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que maintenant il contrôle, lui et la coalition, proche, il contrôle 40% des votes au Parlement et 36% des votes au Sénat, alors qu'il est parti de 0 il y a 2 ans. Ça fait une énorme différence parce qu'il n'y a plus de blocage. on peut plus utiliser le, enfin, le législatif ne peut plus utiliser de veto contre les décrets de présidentiels. Tant que il garde ses alliés avec lui, attention. Sans ses alliés, il passe très légèrement en dessous. Donc, en gros, il va continuer ses réformes. Et peut-être pas autant et aussi violente que sur la première année, parce que maintenant il doit le faire en prenant en compte un peu sa coalition, mais clairement il va continuer ses réformes, ce qui va être extrêmement positif pour les marchés d'actions. Enfin, les ADR argentins le jour de l'annonce ont pris entre 30 et 40%. Bon, je vais vous donner une idée.
Ok.
Donc voilà. Mais alors, ce qui est l'autre point peut-être à souligner avec ces développements, que ce soit au Pérou, au Chili, en Argentine, on voit aussi des bateaux de guerre américains quand même au large du Venezuela. Ce genre d'intervention n'était plus arrivé depuis depuis la guerre froide, je pense. On voit quand même des dirigeants de tous les pays d'Amérique latine qui progressivement, des élections à venir au Brésil l'année prochaine, où il y a quand même des chances que Lula soit remplacé. Donc des dirigeants qui au moins idéologiquement, culturellement, se rapprochent plus des États-Unis. C'est important parce que d'un point de vue économique, c'est une région qui aujourd'hui est passée sous le giron, en tout cas, on va dire que dont le premier partenaire économique est de loin, c'est la Chine. Bon, en dehors du Mexique évidemment. Donc, en fait, il y a une bataille d'influence qui a lieu en ce moment et qui ne fait que, a priori, que commencer entre les États-Unis et la Chine pour cette région-là.
Okay.
Qu'est-ce que ça va vouloir dire dans le futur? Je sais pas. Mais c'est intéressant à noter.
Parfait, parfait. Écoutez, merci beaucoup pour tous ces éclairages politiques. On se retrouve pas le mois prochain, parce que comme Wojciech l'a dit, il y aura le webinaire. Donc n'hésitez pas à nous contacter pour vous inscrire. Ce sera un webinaire qui sera autour du thème de la Chine. Et en quoi la Chine est peut-être devenue le nouveau moteur des marchés émergents. Donc n'hésitez pas à nous contacter pour vous inscrire pour ce webinaire. Et puis un grand merci à tous les deux. Et on se retrouve du coup début 2026 pour faire probablement un bilan sur l'année passée. Merci beaucoup.
Merci beaucoup. Au revoir.